What's up, y'all? Bienvenue à
Black Girls from Laval!
Yeah!
Donc, je suis votre host, accompagnée de mes deux autres hosts. Ben, on est tous, nous trois, les hosts, là.
Yeah, c'est ça, on est trois.
So, don't get a break. Ensuite, nous avons...
Et moi, c'est Christelle.
Et on a la grosse qui fait des vidéos.
Naila. Naila.
OK, d'accord. Naila aussi, pour les intimes.
Alors, bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui, un épisode très spécial. Vous allez voir. Pour vrai, je pense que vous allez vraiment aimer cet épisode, OK? Parce que... We're strong! On est là pour vous, la gang. On est là, on répond à vos demandes. Alors, aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner au Patreon. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, YouTube, partout. N'oubliez pas de nous encourager. N'oubliez pas de faire des dons pour le PayPal pour qu'on puisse faire d'autres invités avec des gens full cool que vous nous demandez de faire. Yo!
Puis, je vous rappelle aussi que cet épisode est financé par la Fédération africaine canadienne de l'économie, donc FACE. Quand que Justin Trudeau a dit qu'il allait donner l'argent pour les entrepreneurs noirs, ben, il a mis, son argent, ou est-ce que ça... Les babines suivent les bottines? Non, les bottines suivent les babines. C'est-tu ça?
En tout cas, ça.
C'est ça, là. C'est ça, là.
C'est
si tu veux sortir mes expressions québécoises. C'est non, mais c'est ça.
She
fait que si jamais vous êtes un entrepreneur puis vous voulez de l'argent, des fonds, des subventions, contactez Thierry Lindor, Tiffany Callender, shout-out to her, puis là, on est prêts à commencer.
Mm-hmm. Alors...
OK, so guys, first thing first... Notre invité aujourd'hui, Naila, tu veux-tu nous le dire, c'est qui?
J'attends peut-être tout le monde, mettez-vous debout à la maison pour écouter l'épisode parce qu'en signe de respect, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on a un invité spécial qui s'appelle Tiben, pour les intimes. Mais sinon, on va le laisser se présenter pour les gens qui savent. Ben écoute,
qui connaissent pas
pour les gens qui sont pas au Canada, on va dire, parce que je dis, c'était au Québec.
Non, il y a du monde qui savent pas. Il y a du monde qui savent pas. Il y a du monde qui choisissent de pas suivre la politique, donc ils veulent pas.
Présentez-toi, vous. Oh mon Dieu, on dit toi ou vous?
Toi, alors, tu, Benoît, peu
yo, Tiben, présente-toi.
Tu as dit Tiben, t'es capable de dire tu, là.
Nous mettrons les petits Ben.
OK. Alors, tu peux te présenter pour les gens à la maison qui savent peut-être pas.
Benoît, pour ce qui est du prénom. Charette, pour ce qui est du nom de famille. Donc, député de Deux-Montagnes à la base. C'est la première fonction que j'ai. Sinon, ministre responsable de la lutte contre les changements climatiques, de l'environnement, contre le racisme également. Ministre responsable de la région de Laval. Donc, différentes responsabilités qui me tiennent occupées. Mais surtout, très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
Yeah. Yeah. De te recevoir.
Ça va être top,
mon affaire.
Puis bon, on va dire les vraies affaires aussi. Je sais qu'il y a du monde justement qui ne seront pas nécessairement contents d'avoir cet invité-là à notre table parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui ont beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations, puis que tu sais, qui sont pas contents. Fait que nous, on est là justement parce qu'on veut être un espace où est-ce qu'on est capable d'avoir des vraies conversations puis de poser les vraies questions qui nous concernent, nous, en tant que communauté. Mais quand je dis communauté, je parle pas juste la communauté noire, je parle juste la communauté Black Girl from Laval, OK? Yeah. Fait que en tant que communauté, nous, on veut être une place pour la conversation. Ça se peut qu'il y ait des enfants qui soient dit qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, mais à the end of the day, si on en parle, au moins, ça crée la conversation puis ça crée un changement puis des réflexions. Donc, voilà.
J'aurais une première question, OK, pour lancer le tout, parce que dans les premières critiques, moi-même, j'ai fait des vidéos pour chialer. Hein. Dans les premières critiques, on se demandait pourquoi est-ce que la première chance qu'on a d'élire un ministre antiraciste, c'est une personne blanche, une personne non racisée. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez... En tout cas, je suis pas une
comment vous sentez par
rapport à ça? C'est ça, comment vous sentez par rapport à ça, par le fait que ce soit pas une personne racisée, le fait que ce soit vous, le fait que les gens soient pas nécessairement contents, comme tout l'ensemble de l'œuvre.
C'est comment ça va? Comment ça va?
Comment c'est... Je sais pas, j'ai l'impression que ça aurait donné un plus fort message si la personne avait été racisée.
En fait, la question est très, très légitime. D'abord, le sujet m'intéresse depuis toujours. Pour avoir vécu longtemps en situation minoritaire, notamment en Haïti, ma famille elle-même est mixte de par ma conjointe d'origine haïtienne. Mais à la base, c'est la prérogative du premier ministre. C'est le premier ministre qui décide un petit peu où placer ses joueurs. Mais là où je lui donne le crédit et je lui lève mon chapeau, c'est qu'on a un gouvernement avec une représentation de gens issus de différents horizons la plus grande. On n'a jamais eu un gouvernement, un conseil des ministres aussi diversifié que celui que nous avons actuellement, avec deux ministres notamment d'origine haïtienne. J'aime penser que Nadine Giraud, qui est d'origine haïtienne, qui est ministre de l'Immigration, qui est ministre des Relations internationales, joue un rôle encore plus prépondérant dans ces fonctions-là. Imaginez-vous ceci, Nadine Giraud, d'origine haïtienne, québécoise, qui est le visage du Québec à l'étranger. C'est elle la première diplomate au Québec. Donc, j'aime donner l'image du Québec diversifié où un noir ou une noire n'est pas obligé de parler de lutte au racisme et qu'un noir ou une noire peut aussi faire autre chose que de parler de lutte au racisme. Nadine, c'est le visage du Québec à l'étranger. Donc, c'est une belle façon d'illustrer un petit peu la complémentarité de l'équipe. Et Lionel, qui est lui aussi d'origine haïtienne, qui lui aussi faisait partie du groupe d'action contre le racisme, c'est un neuropédiatre de réputation internationale. Il développe littéralement les services sociaux pour notre jeunesse notamment. Donc, très heureux de savoir que Lionel est dans son champ d'expertise plutôt que de devoir assumer une responsabilité qui est excessivement importante uniquement par le fait qu'il est lui-même noir. Donc, c'est là où c'est l'intérêt qui compte, naturellement, en espérant la compétence aussi. Je vais essayer de démontrer avec les années que j'ai la compétence pour occuper cette fonction-là, mais essayons de sortir justement de ces stéréotypes-là où une personne noire est celle qui doit automatiquement parler de lutte au racisme. Mais ceci dit, ils sont de la même équipe que moi, donc on travaille ensemble sur ces dossiers-là aussi.
Mais parce que quand on dit noir, moi je trouve qu'on met trop l'emphase que le racisme, c'est les noirs.
Il n'y a pas d'autres gens.
Il n'y a pas juste les noirs qui subissent, comme oui, nous c'est plus, là. Mais il n'y a pas juste les noirs qui subissent du racisme. C'est vrai que je ne comprends pas pourquoi on réfère toujours que, oh, ok, ben on
les noirs. C'est pas juste les noirs qui
doivent. Exactement.
Mais moi, il y a un mot que vous avez dit qui m'a genre comme justement...
Trigger.
Pas trigger, mais c'est juste comme, tu sais, mettons, vous avez parlé justement de champ d'expertise. Tu disais genre que, ah, oh, tu sais, il y a telle personne qui est ministre de ci, telle personne qui est ministre de ça, parce que, tu sais, ils sont dans le bon champ d'expertise. Fait que, tu sais, moi, personnellement, la question, puis ça, c'est aussi le public qui nous a demandé, c'était de savoir que pourquoi... Mettons, là, tu sais, vous êtes aussi responsable de l'environnement, mais est-ce que ça n'aurait pas été plus... Parce que ça dilue la lutte un peu, peut-être, de, comme, avoir beaucoup trop de mandats à faire en même temps, parce que, tu sais, mettons, quelqu'un qui est ministre de, mettons, l'immigration, ben, il se concentre sur l'immigration, puis c'est tout. Mais, tu sais, mettons, genre, là, je me dis, votre attention doit être dans les deux sens, fait que c'est comment que...
Mais je pense que c'est surtout que c'est un poste qui vient d'arriver, c'est nouveau, comme oui, ok, c'est bon, c'est place à un changement. Mais je pense qu'on aurait dû se concentrer vraiment que juste sur ça, parce que ça englobe tellement d'affaires, comme si...
Ça n'a jamais été créé. Mettons l'environnement, j'adore l'environnement, puis ça, c'est quelque chose que je sais que les gens vont peut-être être fâchés contre moi. Mais c'est que, comme mettons, la lutte de l'environnement, c'est pas une surprise pour personne, c'était toujours le racisme non plus. Mais on dirait que c'est maintenant que les gens commencent à comme, allumer que, ah, oh, peut-être qu'il y a des affaires qui sont problématiques, puis comme les gens commencent à le nommer, justement. Mais après ça, c'est que. T'sais, est-ce que ça n'aurait pas pu être une personne, puis en même temps, vous allez dire que probablement, c'est pas vous qui choisissez?
Genre. Mais aussi, tu pourrais nous dire si c'était possible. Parce que, est-ce que c'était toi qu'on te rajoute une deuxième tâche, ou est-ce qu'on aurait rajouté une tâche à tout le monde?
N'importe comme qui c'est ça. En fait, c'est des bonnes questions, mais il n'y a aucun ministre au gouvernement qui a une seule responsabilité. Donc, on en a tous quelques-unes. Mais ce que je dis souvent, je serais inquiet si j'étais seul à assumer ces responsabilités-là, mais j'ai une superbe équipe avec moi, autant du côté de l'environnement que de la lutte au racisme. Et dans le cas de la lutte au racisme, j'ai hérité avec le mandat d'un ami de Laval aussi, Christopher Skeet, qui agit avec moi comme adjoint parlementaire. Donc, on est deux dans les faits. Et j'oserais dire trois parce que le plan d'action qu'on doit mettre en place a plusieurs mesures qui touchent les Premières Nations. Et on a aussi un ministre responsable des Premières Nations. Donc, je suis pas seul. J'ai deux collègues élus avec moi, sans compter un cabinet qui est dédié, sans compter des gens au ministère du Conseil exécutif qui nous appuient à travers un bureau de coordination. Seul, je serais sincèrement inquiet. Puis je vous le dirai cet après-midi, hein, je serais inquiet pour la suite des choses. Mais aussi, il faut penser que c'est la mise en place d'un plan d'action, la réalisation d'un plan plan d'action. Donc, il y a beaucoup des actions qui vont se faire dans les ministères eux-mêmes. Mm-hmm. Quand on parle de revoir, par exemple, le cursus scolaire pour mieux enseigner la diversité, mieux traduire, justement, on parle souvent que ce soit le mois de l'histoire des Noirs ou le mois de juin, c'est le mois de l'histoire des Premières Nations. Mm-hmm. Mais malgré tout, on en entend parler très peu lorsqu'on est jeune à l'école. Mm-hmm. Donc, faut revoir ces cursus-là. Et là, c'est la responsabilité du ministre de l'Éducation. Donc, à Jean-François, à qui j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs reprises là-dessus, je lui ai dit, ben, regarde, faut continuer à travailler tel élément. Donc, la réalisation de ces mesures-là passe par plusieurs ministères avec lesquels on collabore là, de façon extraordinaire. Là, ça va bien.
Allô tout le monde, on est ici, Christelle et moi, pour interrompre votre écoute. Pourquoi? Parce qu'on a une bonne nouvelle. Christelle, dis-leur la bonne nouvelle.
Et l'épisode d'aujourd'hui est extrêmement spécial. Et vous savez pourquoi? Tu sais, on aime ça, genre créer une petite attente, comme vous faire un peu genre titiller avant de... Ah, ok, je vais vous le dire. Cet épisode est commandité, la gang!
On est comme ça, nous. On est des filles de sponsorship. On est des filles de partenariat. On est des girls de Laval. L'épisode d'aujourd'hui est, ben, et un autre aussi, est commandité, sponsorisé, collaboré avec HelloFresh. HelloFresh, ce sont des boîtes de repas, la gang. On vous envoie une boîte. Il y a des ingrédients. Vous les cuisinez. C'est déjà préportionné.
Puis tu sais, elle parle comme ça parce que ça simplifie la vie. Fait qu'elle essaie de parler en simplifiant les choses.
Je veux que vous compreniez bien. Droite au but. Non, non. Ce soit une boîte, il y a des ingrédients préportionnés. Il y a la recette. Tu cuisines. Moi, je trouve ça fun si tu veux essayer une nouvelle recette que tu n'as pas essayé dans ta vie au lieu de devoir acheter 4 livres de parmesan puis finalement, tu n'aimes pas ça, c'est rare.
Puis tu sais, surtout aussi, genre, quand tu fais tes propres repas ou tu habites seul, c'est tellement pratique parce que tu peux pas faire ton épicerie genre comme pour comme une semaine puis après deux jours, ton poireau est rendu genre poireau. Tu sais, you don't want that. Donc, moi, je trouve ça vraiment pratique puis ça fait des bons lunchs.
Donc, à la maison, vous avez entendu tout ça? La partie sponsorship, ça, c'est bien pour nous. Mais ce qui est bien pour vous...
Ça sent le rabais!
On a un rabais pour vous. Roulement de tambour. BGFL 20. Vous avez l'équivalent de 20 repas gratuits étalés sur vos trois premières commandes.
J'en fais pour la première commande, tu aurais genre 50% de rabais. Pour la deuxième commande, 25%. Et pour la troisième commande aussi. Fait que, hey, moi, je sais pas pour toi, là. But I would do that parce que, tu sais... Ça coûte cher de nos jours manger, mais HelloFresh got you. We got you, baby.
We got you. BGFL nourrit le peuple. BGFL nourrit sa communauté. Il y a combien de gens, vous pouvez dire, des influenceurs, puis ils vous nourrissent? Nous, on vous nourrit. On vous nourrit intellectuellement, qu'on a des invités bien intelligents, qu'on dit des phrases bien intelligentes. Puis on vous nourrit spirituellement, qu'on a des invités qui parlent de religion. Puis là, on vous nourrit bedonnalement.
So, vous savez quoi faire, la gang? On va tout mettre les liens en dessous de la vidéo. So, like, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur HelloFresh. Puis n'oubliez pas, le code, c'est BGFL20. So, va chercher ton rabais, mon gars.
Bon épisode pour le reste.
Bisous, bisous, cœur, cœur.
J'ai vu votre document, justement, qui expliquait les 25 actions que vous avez. Il y en a juste, il y en a, ben, 25. Il y en a juste 25. Il y en a beaucoup 25, mais il y en a 25. J'ai comme c'est, chaque deux semaines, on fait une nouvelle action, tout le monde. C'est quand même assez, c'est beaucoup d'actions. Je veux savoir, est-ce qu'il y a des conséquences si les ministères en tant que tels ne font pas les actions? Est-ce qu'il y a un deadline? Comment on fait pour savoir si c'est respecté ou non? Parce que c'est vraiment cool de soumettre des actions. Si vous voulez, je peux faire un podcast avec plein d'idées. La question maintenant, il faut que quelqu'un les fasse.
La première personne qui a inventé le McDonald's, qui a pensé à un burger, n'a pas inventé le McDonald's. C'est quand est-ce que c'est le concret arrive?
Ben, là aussi, on a un premier ministre qui est très impatient. C'est un gars de résultats. Puis il me dit, Benoît, c'est pas 25 actions dans lesquelles tu peux piger. Il faut réaliser les 25. Souvent, par le passé, c'est ça qui est triste un petit peu. Il y a eu plusieurs études, il y a eu plusieurs enquêtes, consultations sur la lutte au racisme. Des rapports, on en a un et un autre d'accumulés sur les tablettes à Québec. Donc, on voulait pas s'arrêter à cette étape-là. On a un plan d'actions, 25 actions, et le premier ministre a été très, très clair, il faut réaliser les 25. Mm-hmm. Donc, c'est pas un pick and choose, les 25 vont se réaliser. Naturellement, il y en a qui sont plus simples que d'autres à réaliser. Tout à l'heure, je parlais de changer le cursus scolaire. Déjà, le ministère de l'Éducation est bien avancé dans sa réflexion. Le cours d'éthique et d'éducation à la citoyenneté que l'on connaît va être modifié pour laisser place justement à plus de matière, plus d'éléments sur ces enjeux-là. Mais ça, c'est pas parce qu'on le dit que le lendemain, le professeur ou les professeurs vont changer leur cours. Donc, ça prend du temps. Donc, il y a certaines mesures qui vont prendre une année, deux ans à s'installer, à se mettre en place. Mais il y en a qui déjà, depuis quelques mois, ont progressé. Un exemple, on veut que notre société soit plus représentative de ce qu'est le Québec, c'est-à-dire un visage qui est pluriel. Donc, une des recommandations demande à ce qu'il y ait plus de gens racisés sur les conseils d'administration des sociétés d'État. C'est l'image des sociétés d'État qui en dépend. Et depuis notre nomination, on a fait des pas de géant à ce niveau-là. Il y a eu plusieurs nominations à des postes importants, que ce soit la présidence du conseil d'administration de la Société d'assurance automobile du Québec, Conrad Sewin, un ancien chef autochtone, Mme Joisil, qui est d'origine haïtienne, qui a été reconfirmée à Recyc Québec comme présidente, M. Saint-Élémy au niveau de la présidence du Musée des beaux-arts du Québec. Bref, on veut faire en sorte que nos conseils d'administration, sociétés d'État, soient plus représentatifs, et ça envoie un message extrêmement positif à la population de dire, ben voici, c'est ça le Québec d'aujourd'hui, des gens avec des profils différents, avec des origines différentes. Donc ça, c'est une des mesures sur laquelle on a beaucoup, beaucoup progressé en quelques semaines à peine.
C'est bon, ça?
Ben, c'est ça. Ben, comme tu sais, là, comme pour moi, c'est beaucoup aussi, c'est important de savoir, mais il y a aussi beaucoup de name drop. Mais en fait, moi, genre, comme, tu sais, j'ai lu le document aussi, puis comme, tu sais, c'est très pertinent et tout, puis il y a plein d'informations que, genre, c'est sûr qu'on n'a pas le temps de tout couvrir, mais moi, les questions qui me trigger, puis avec les gens que je parle, qui trigger, c'est même pas tant par rapport à comment ça fonctionne, mais surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui questionnent votre poste en tant que tel, dans le sens qu'il y a du monde qui disent de la même façon qu'ils prendraient jamais un homme pour être la ministre de la condition féminine. Comme pourquoi que c'est acceptable, entre guillemets, de prendre quelqu'un qui n'est pas une minorité pour représenter les minorités, en fait.
J'ai quelque chose à dire, je veux rajouter un
peu. Oui.
J'aimerais juste dire que, si vous allez voir la vidéo que j'ai faite, c'est qu'en ce moment, moi, de mon point de vue, okay, après ça, vous direz aussi, mais de mon point de vue, je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux, pour vrai, parce que on n'arrête pas de dire que il faut que les Blancs éduquent les autres Blancs. Mm-hmm. On n'arrête pas de dire ça. On n'arrête pas de dire qu'on veut un break et qu'on veut être invité pour parler autre chose que de racisme. Ça, c'est ce qu'on dit, nous aussi.
Non, mais je suis d'accord avec toi.
Fait qu'en ce moment, je me dis, je ne sais pas si c'est le meilleur poste, c'est quelqu'un qui l'a vécu ou quelqu'un qui ne l'a pas vécu ou quelqu'un qui est empathique ou quelqu'un. Mais je me dis, en ce moment, il y a beaucoup de choses que, si c'est. Comme, mettons, en ce moment, le racisme systémique, il y a plein de gens qui sont comme, non, ça n'existe pas parce que le ministre ne dit pas que ça existe. Mais dès que le ministre va dire que ça existe, parce que c'est quelqu'un qui leur ressemble, qui le dit puis qui l'utilise, ils vont y aller. Comme si,
mais à l'inverse
si
c'était aussi, il a dit qu'il n'existe pas, fait que là, les gens, il y a du monde qui ne croit pas aussi.
Mais je veux dire, c'est qu'en ce moment, peut-être que s'il y a nommé quelqu'un d'autre, peut-être que cette personne-là se ferait, je ne sais pas, lancer des œufs chez elle. Peut-être qu'elle serait faite menacer de mort. Des affaires comme ça, fait que je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux.
Mais en fait, qu'est-ce que je vais faire, c'est que genre, j'allais comme nous demander notre opinion avant, mais je voulais juste avoir sa réponse pour voir, parce que c'est lui qui occupe le poste aussi, parce que c'est peut-être que sa réponse va donner une réflexion aussi. Là.
Mais c'est un petit peu ce que je mentionnais tout à l'heure. On a un conseil des ministres qui est très diversifié. On a un caucus qui est très diversifié aussi. Et j'aime penser que ce n'est pas parce que je serais noir que je devrais automatiquement parler de lutte au racisme.
Mais je parle pas juste d'être noir. Mettons, moi, je pense que ça m'aurait pas dérangé. En fait, il y a beaucoup de personnes que ça aurait pas dérangé. Qu'importe quelle autre culture, peu importe, sauf si ça reste quelqu'un qui est de la culture asiatique, quelqu'un qui est de la culture arabe.
Ça, mais... c'est un autre très, très bon point. Et comme formation politique, puis je ne veux pas tomber dans la partisanerie, mais aux dernières élections, en fait, si on regarde, c'est un parti qui est relativement récent, qui a été créé en 2011. On est la formation politique qui, à chaque élection, a le plus de candidatures issues notamment de l'immigration. Naturellement, on a réussi à en faire élire quelques-uns, pas assez à mon goût. On va donner, encore une fois, je suis convaincu, le ton à la prochaine élection pour avoir encore davantage de candidatures issues de la diversité. On va espérer que plus de ces gens-là, plus de députés soient élus, et ça va élargir le bassin. Moi, je regarde notre conseil des ministres, je regarde notre caucus, très, très fier de notre équipe, mais je vais souhaiter, vous avez parlé d'une personne d'origine asiatique, on est en 2021, malheureusement et tristement, dans l'histoire du Québec, il n'y a jamais eu de député homme ou femme d'origine asiatique. Et pourtant, la présence des différentes communautés asiatiques au Québec...
C'est-tu parce qu'ils n'appliquent pas?
Ben, en fait, il y a sans doute eu des candidatures par le passé, mais n'ont pas été élues. Donc, moi, le rôle que je vais souhaiter jouer à la prochaine élection, c'est m'assurer qu'on a des gens issus de différentes origines dans des comtés où on a des chances de gagner, pour que cette personne-là ne soit pas que candidate, mais qu'elle devienne élue. Mais moi, ça m'attriste. On est en 2021. Mmh. On a une communauté d'origine asiatique qui est implantée au Québec depuis des décennies, voire des siècles. Plus d'un siècle, très certainement. Mais jamais dans l'histoire du Québec, on a eu un ou une députée d'origine asiatique. On en a eu plusieurs noirs, et la plupart, pas tous, mais la plupart étaient d'origine haïtienne. Mmh. Il y a mon bon ami Makakoto, qui lui est d'origine africaine. Mais des Noirs, on en a eu quelques-uns. On en a déjà actuellement, on en a encore quelques-uns d'élus, ce qui est une belle avancée, mais ce n'est pas représentatif de la société parce que non, on n'a pas assez d'élus d'origine maghrébine ou d'origine asiatique. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut améliorer.
Mais c'est pourquoi, justement, que les gens. Tu sais, on va se dire, mais pourquoi, comme, qu'il n'y a pas du monde qui s'inscrit? Parce que moi, je peux parler pour
non,
moi.
Non, mais c'est comme, mettons qu'ils vont se porter comme,
oui,
comme truc, mais ils sont pas votés pour eux. Mm-hmm. Les gens, toi, quand tu vas voter, c'est que t'as pas voté pour la personne qui est arabe, t'as pas voté pour la personne asiatique. C'est là qu'ils sont
mais
pas élus.
On est trop habitués de voir.
Tu comprends? Mm-hmm. C'est là qu'ils sont pas élus, fait qu'ils peuvent pas se rendre plus loin parce que à l'étape 1, on n'a pas voté pour eux.
Mais en même temps, les partis politiques savent fort bien les comtés où ils ont des chances de gagner. Donc les partis politiques ont la responsabilité de placer des gens issus de la diversité dans des comtés où on a des chances de gagner. Moi, je parle naturellement pour ma formation politique. Je regarde déjà les élections qui vont venir l'année prochaine. Je sais les comtés qui sont prenables pour nous. Et avec la direction du parti, je veux m'assurer qu'on ait davantage de candidats et candidates issus de la diversité dans ces comtés-là. Tout à l'heure, je parlais des conseils d'administration. Je crois beaucoup en l'exemple. À partir du moment où tout le monde au Québec va voir davantage de gens aux différentes origines occuper différentes fonctions. Ça devient, on vient normaliser le fait que le Québec, c'est fondamental. C'est ça, l'exemple, la représentation, mais c'est la responsabilité ou le rôle d'exemplarité de l'État qui peut faire une différence cette semaine.
Il peut faire une grosse différence, mais l'affaire, c'est que, mettons, tantôt, vous avez dit, c'est attristant quand même, mettons, qu'il n'y a pas assez de diversité et tout, mais c'est aussi attristant de comme pas admettre le racisme systémique, je trouve, parce que c'est nous, on voit que c'est flagrant, genre. Fait moi, je trouve que c'est un point qui est vraiment comme déjà difficile. Fait moi, je veux savoir votre point, mais comme votre position par rapport à ça, parce que votre parti veut pas admettre justement qu'il y a du racisme systémique, mais vous luttez contre le racisme. Fait
c'est un peu absurde.
Ça marche pas. Merci pour la question, parce qu'elle m'est souvent posée, mais c'est rare que j'ai l'occasion d'échanger ouvertement.
Today you have the time.
Voilà, puis on va le prendre, ce temps-là. Mais en fait, il y a un danger avec cette expression-là qui est relativement nouvelle. Nous, on dit on veut lutter contre toutes les formes de racisme. Ça, c'est l'engagement que j'ai pris. Mais à partir du moment où on parle uniquement de racisme systémique, il y a des pièges. Il y a des pièges qui nous amènent à la question de la protection du français. Parmi les militants, les personnes qui militent fort pour le concept de racisme racisme systémique. Plusieurs d'entre eux et d'entre elles disent la loi 101, la loi sur la protection, en fait, la charte de la langue française est une preuve de racisme systémique. Donc, comme gouvernement qui a la responsabilité de faire la promotion de la langue française, déjà, il y a un choc d'idées là, qui est irréconciliable. On a une loi qui a été adoptée plus récemment au niveau de la laïcité. Certains disent que c'est une preuve de racisme. Exactement. La loi 121. Donc, certains disent que c'est une preuve de racisme systémique. Donc, vous comprenez que comme gouvernement, on ne peut pas faire ce genre d'équation-là. Et ce qui me dérange un peu avec l'expression que je qualifierais de fourre-tout de racisme systémique, c'est que ça enlève la responsabilité de chacun. Dans les dernières semaines, on a vu des manifestations de racisme très, très cruelles qui, moi, me font mal au cœur à chacune des fois dans les rues de Montréal où une minorité, des jeunes issus d'une minorité s'en sont pris à d'autres gens issus d'une minorité en les qualifiant de propos racistes. Merci. Donc, le racisme, c'est pas uniquement société d'accueil à l'égard de gens issus de l'immigration. Ce n'est pas uniquement les Blancs contre les Noirs, on le disait tout à l'heure. On est tous sujets à avoir des biais. Donc, à partir du moment où on dit c'est le système ou c'est un racisme systémique, ça nous enlève à chacun la responsabilité de prendre conscience des biais qu'on peut avoir, du rôle qu'on peut avoir pour lutter contre le racisme.
Mais je pense pas que ça nous enlève, parce que c'est un fait.
On va faire un tour de table. On va faire un tour de table parce qu'on a tout beaucoup à dire.
OK, mais au pire, ça serait quoi qu'il vous faudrait pour admettre qu'il y aurait du racisme systémique? C'est quoi
que ça? Que Legault l'admette?
Mais à la base, c'est qu'il n'y a pas de définition qui rallie les gens. À partir du moment, lorsqu'on parle de racisme, c'est clair. Il y a une série, je ne sais pas si vous l'avez écouté, Orange is the New Black.
Mm-hmm. Yes,
ben, là, le danger, c'est que le racisme devienne, le racisme systémique devienne le nouveau racisme. Il faut parler de racisme. Il faut parler de toutes les formes de racisme. Mais si on s'entête à ne vouloir parler que de ce que certains considèrent comme étant du racisme systémique, on va passer à côté de bien, bien des occasions d'améliorer le vivre ensemble.
Mais je pense pas, parce que ça englobe, anyways. Comme on sait qu'il y a du racisme depuis 2002. Je suis cute, moi.
Depuis la ségrégation de 2002,
je pense pas que ça va faire que ça va comme baisser le fait que comme on peut pas aller vers comme quelque chose qui arrive, parce qu'on sait déjà qu'à la base qu'il y a du racisme. Fait que je pense pas que admettre qu'il y a du racisme systémique va downgrade.
Parce que à la base, moi je trouve que le racisme, ça c'est un concept que tout le monde sait que ça existe. Exact. Mais le truc c'est que genre, c'est facile de se dissocier, de normaliser, de faire comme si que ça existe.
C'est les autres, c'est pas moi.
Exactement. Mmh. Mais le truc, c'est que, genre, puis moi, je dis toujours, même moi, en tant que personne noire, j'ai des biais. Justement, il y a des affaires que moi, je dois déconstruire. Mmh. Mais après ça, c'est que, comme quand quelqu'un va me dire, puis en général, c'est des personnes blanches qui vont me dire qu'il n'y a pas de racisme systémique. Puis peut-être, des fois, il va y avoir des poignées de minorités qui vont être d'accord, mais moi, je les appelle des personnes qui ne sont pas assez déconstruites pour voir que même eux, ils ont des propres biais. Parce que je me dis, comme, OK, mettons, genre, quelqu'un va me dire que le racisme systémique n'existe pas. Moi, je le vis. Genre le racisme que le système me fait vivre.
C'est pas juste de le vivre,
mais attends, c'est que genre mettons, c'est comme si comme dit que mon vécu n'est pas valide parce qu'il y a une personne qui a le micro ne l'a pas vécu, donc comme moi ma réalité c'est pas vrai. Puis moi genre je pense pas que comme toutes les minorités qui vont dire qu'il y a du racisme systémique, parce qu'on parle comme si c'était une poignée de gens, mais il y a une grosse majorité au Québec genre de minorités qui croient que le racisme systémique est un problème. Puis moi c'est que, puis il y a beaucoup de personnes qui disent aussi, c'est à partir du moment qu'on acknowledge qu'il y a un problème qu'on va changer les choses. Si on pense que ça va bien, ça va rester pareil. Puis même j'écoutais une vidéo, même dans un de vos discours passé, vous disiez justement que vous voyez du racisme, puis que du caractère systémique du racisme, puis ça c'était avant que vous soyez dans le poste. Puis moi, c'est là que genre, j'ai de la misère, parce que j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Genre, on va dire les vraies affaires.
J'ai vu la vidéo, c'est une intervention que j'ai faite il y a une dizaine d'années à l'Assemblée nationale, et je pourrais répéter tous les mots que j'ai prononcés à l'époque. Il y a du racisme, oui. Il y a certaines communautés qui en sont davantage touchées, oui. Mais c'est à partir du moment où on dit le système y contribue. Moi, je suis plutôt d'avis que le système travaille très fort à éradiquer le racisme. racisme, mais que malheureusement, chez certaines personnes, c'est encore présent. Dans certaines, au niveau de certains biais personnels, c'est encore très présent. Mais à partir du moment au Québec où on a une manifestation de racisme, je vais la dénoncer, tout le gouvernement va la dénoncer et on va faire en sorte que cette situation-là soit corrigée. Donc, à partir du moment, et je le dis entre guillemets, à partir du moment où le système mis au fait d'une situation problématique, le système travaille fort à corriger le problème. Est-ce que c'est parfait? Est-ce qu'il
travaille fort comment? Parce que, admettons, qu'est-ce qui est arrivé avec l'affiche de l'hôpital Joby?
Oui, Joyce Echaquan. Ben, en fait, c'est un très, très bel exemple.
Non, pas juste pas vrai, la demande d'emploi que le monsieur... Mais femme blanche seulement.
Deux choses là-dessus. C'est deux sujets extrêmement importants. Joyce Echaquan, une tragédie sans nom. Mm-hmm. Et heureusement qu'elle, malheureusement, a filé le tout, parce qu'autrement, personne ne l'aurait su.
Oui, mais tu sais, on n'a jamais vu la face de l'infirmière. C'est pas normal, ça. Tandis que si ça aurait été... Si ça aurait été une infirmière noire qui l'aurait fait, on sait très bien que...
Oui, ben, en fait... À ce niveau-là, lorsque la situation a été révélée, moi, je peux vous dire toutes les mesures qui ont été mises en place. Il y a eu plusieurs congédiements, d'une part. Donc, c'est sans appel, sans pitié, des congédiements. Mais Christian Dubé, ministre de la Santé, et Yann Lafrenière, responsable des dossiers autochtones, ont mis une série de mesures. Un, au niveau du 6 de la Naudière, où ça s'est passé, on a un dirigeant aujourd'hui autochtone. Déjà, ça vient changer la perspective. Je vous parlais des congédiements, mais il y a beaucoup d'argent qui ont été investis pour s'assurer, on appelle ça des navigateurs. Là. Donc, à l'hôpital de Joliette, dorénavant, il y a des gens issus des communautés autochtones qui travaillent à, on appelle ça de la sécurisation culturelle aussi, s'assurer que la réalité autochtone est prise en compte. Donc ça, tout ça s'est fait en quelques mois, malheureusement, suite au décès de Joyce Echaquan.
Mais c'est ça l'affaire, je trouve. Donc, qu'on dirait qu'il faut toujours quelque chose pour que là, wouhou, on se réveille. On savait déjà qu'il y avait des problèmes.
En fait, pour ce cas-là en particulier, ça a amené des changements assez majeurs, assez rapidement, appuyés par des moyens financiers importants. Mais dans plusieurs des actions qui sont mises de l'avant dans le plan d'action, on veut aller au-devant. À partir du moment où on dit on change le système ou la façon d'enseigner l'histoire ou le contenu en histoire, là, on va au-devant. On réagit pas à une situation tragique. On se dit, pour avoir une meilleure cohésion sociale, pour avoir un meilleur enseignement de ce qu'est le Québec d'aujourd'hui, il faut que nos jeunes primaires, secondaires, donc dès la petite école, puissent savoir qu'il y a des gens d'origine africaine ou des gens d'origine asiatique qui ont fait du Québec le Québec que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est la même chose pour les Premières Nations. Dans les cours d'histoire, malheureusement, la représentation est très...
Dans les cours d'histoire.
C'est vos moyens pour sensibiliser les jeunes Québécois. Mm-hmm. Est-ce que vous avez aussi des moyens pour les adultes, pour les vieux, pour ceux qui ne vont plus à l'école?
Oui.
Est-ce que c'est ça?
Vous allez voir, on a tous vu à travers les années les publicités de la Société d'assurance automobile du Québec. Tantôt, on va parler de ceinture de sécurité. Tantôt, on va parler de cellulaire au volant, tantôt de vitesse au volant. On appelle ça une campagne sociétale. Dès l'automne, vous allez voir, on va lancer une campagne sociétale pour lutter contre le racisme. Mm-hmm. La Société d'assurance automobile du Québec a des moyens financiers importants pour conduire sa campagne de publicité. On a les mêmes moyens à notre disposition. Donc, il faudra voir le concept, on perdra. Mais à travers cette campagne-là, c'est pas la même publicité qu'on va voir sur 10 ans. Mm-hmm. Il y a différentes facettes qui seront mises de l'avant, tantôt pour corriger un comportement ou des biais, mais tantôt pour mettre de l'avant ce qu'il y a de positif. Moi, j'ai eu plusieurs rencontres ces derniers mois et depuis toujours. Pas depuis ma nomination, j'ai toujours été fasciné par le mois de février qui est le mois de l'histoire des Noirs. dans les faits, ça existe au Québec depuis plusieurs années, mais c'est rare que le rayonnement déborde certains types de médias ou certains types de réseaux sociaux. Moi, le rôle que telle ou telle personne a pu jouer dans l'histoire du Québec et que cette personne-là était précurseur, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours à peine sur, et malheureusement son nom m'échappe, un grand chercheur qui est malheureusement décédé aujourd'hui du côté de l'Université McGill notamment. C'est un hématologue noir qui a fait avancer beaucoup la recherche sur les transfusions sanguines. Mais à l'époque, on mélange pas le sang des blancs avec le sang des noirs, alors que c'est le même sang. Mais ce professeur-là, de réputation mondiale, a fait avancer l'hémato-oncologie, l'hématologie de façon remarquable. Personne ne le connaît, ou à peu près personne ne le connaît. Donc, il faut mettre de l'avant des figures de cette nature-là pour dire aujourd'hui, si on a la qualité de vie que l'on a au Québec, c'est à cause de plein de gens qui avaient des origines différentes.
Est-ce que vous pensez qu'il vous aurait pris quand même si votre femme n'était pas haïtienne?
Ah oui, je suis convaincu que c'est pas l'élément qui a été...
Parce que c'est la première chose qu'on entendait seulement dès qu'on a vu que c'était vous, comme un homme blanc qui est pour la vie.
Juste parce que j'ai une conjointe d'origine haïtienne.
Donc c'est ça qu'on entendait, sa femme est haïtienne, ses enfants sont métis.
J'espère que le premier ministre a reconnu d'autres qualités que celles de la couleur de la peau de ma conjointe.
Il a répondu à la question, tu sais.
Mais c'est-à-dire, ça démontre un parcours. Moi, j'ai vécu une partie de ma vie beaucoup en Haïti, mais que ce soit en Afrique aussi. Bref, j'ai eu le plaisir et le privilège surtout de vivre un peu partout. Donc, c'est déjà dans ma nature. Donc, j'espère que c'est davantage le profil personnel accompagné de certaines compétences que le simple fait que ma conjointe ait des origines haïtiennes. Mm-hmm. Mais ça, c'est une question à lui poser, mais je serais intéressé d'entendre sa réponse.
Non, mais honnêtement, genre, nous, on serait intéressé à d'autres femmes, parce qu'on pourrait lui poser des questions entre haïtiennes.
mais entre nous, et je veux rien lui enlever, mais je suis beaucoup plus haïtien qu'elle peut être haïtienne. Elle parle pas créole, moi je parle créole. Ouais. Elle est née ici, c'est moi qui l'ai amenée en Haïti la première fois. Donc la culture, là, nos enfants, je les pratique un petit peu avec le créole, donc on se taquine beaucoup. C'est comme le monde à l'envers, donc la sensibilité okay. Ici,
elle est née ici? Vous savez quoi?
Ça ne m'étonne même pas.
Mais
ça ne m'étonne pas.
Mais comment ça, elle ne parle pas créole?
Mais il y a là, c'est Naïla, elle ne veut jamais parler créole.
Elle ne veut pas, mais Naïla, je suis là.
Mais là, je ne veux pas créer de conflit entre
eux. Gros conflit qui se donne. J'accepte, là, ça se peut être avec ça, elle ne parle pas créole, laisse-la tranquille.
Mais en fait, c'est ça l'affaire. Comme tu dis, Naïla, c'est que, comme justement, ça, c'est quelque chose à déconstruire parce que. T'sais, en fait, moi, c'est même pas l'affaire que sa femme parle pas mieux créole ou parle pas créole. C'est plus le fait que, comme tu sais, tu peux pas dire que t'es plus haïtien que moi parce que, à the end of the day, en tout cas, moi, je considère pas que we're the same. I'm sorry, mais comme.
C'est
une façon de parler, mais même à ça, genre, comme, tu sais, we're not the same. Puis moi, genre, en tant qu'haïtienne, mon vécu, puis ton vécu, en tant qu'homme blanc, genre, qui a vécu en Haïti, c'est quand même pas pareil parce que je vois comment que les haïtiens en Haïti traitent les personnes blanches.
Je disais ça avec le sourire, naturellement, c'est un clin d'œil, mais dans les faits.
C'est une façon de parler.
Beaucoup, si on remonte dans l'histoire de l'immigration haïtienne au Québec, il y en a beaucoup qui, une fois rendus au Québec, ont voulu couper les liens avec le créole. Donc, sans rien enlever à ma belle-mère ou quoi que ce soit, ma conjointe n'a tout simplement pas évolué dans un environnement où on parlait créole. Elle le comprend. Et entre nous, sur les mauvaises expressions qu'elle connaît, mais pour le reste...
Il y en a
quelques-unes.
Mais moi, ça me fait toujours de la peine quand j'en mets quelqu'un qui est haïtienne va dire comme ah, mais là, tu sais, je suis moins haïtienne. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit une affaire que comme je me sens pas, comme genre, je peux pas relate avec les haïtiens parce que moi, je parle pas créole ou je sais pas comment faire ci ou je sais pas comment cuisiner.
Mais c'est parce que c'est pas juste dans notre tête. Des fois, ça vient des haïtiens aussi qui nous le rappellent tous les jours qu'on n'est pas haïtien. Ma mère dit qu'il peut pas avoir la double citoyenneté. T'es soit haïtien, t'es soit autre chose. So, comment je suis née ici? Je parle pas la langue. J'ai jamais été là-bas, puis je me considérais haïtienne avant de me considérer comme canadienne.
Mais dans les faits, c'est beaucoup comment les parents ont transmis ce lien-là. Je pense pas parler autant de ma conjointe cet après-midi, mais elle, dans son cas, ce qui lui a permis de renouer un peu avec ses origines. Mmh. Au lendemain du tremblement de terre, je l'ai amenée en Haïti. C'est-à-dire, on est allés ensemble au lendemain du tremblement de terre. Donc, il y a eu une prise de conscience où elle s'est rapprochée de ses... Ah, je fais plein... j'ai travaillé là-bas. Mais même une certaine période de ma vie, je travaillais pas officiellement.
Au début, c'était-tu pour le fun? C'était comme, ah, j'allais découvrir ce pays-là?
Non, non, c'était pas comme... J'ai jamais été comme touriste en Haïti. C'était de la coopération avec différentes organisations. Ça a été mon premier mandat. Mais après, je me suis marié là-bas. Pas avec ma conjointe actuelle, mais avec une autre
personne
d'origine haïtienne. Parce que tout le monde pensait que c'était la même, hein?
Non, c'est pas la même. Ça non plus, ma conjointe actuelle n'aimerait pas ça si... Pardon?
C'est quoi vous aimez des Haïtiennes comme ça?
À partir du moment où tu vis en Haïti, que t'es célibataire, t'as bien, bien des chances de rencontrer une Haïtienne. Donc, c'était mon cas à l'époque.
C'est les odds sont élevés.
On peut... Oui, les probabilités étaient très, très élevées, effectivement. Donc, le hasard de la vie, tout simplement. Mais c'est un pays... Je suis chez nous, en Haïti. En Haïti, il y a personne, je pense, qui connaît Benoît. C'est Tibet.
Les Haïtiens, pour vrai, on est très, 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 très accueillants. Puis les Haïtiens aiment beaucoup les Blancs. Je suis désolée, mais c'est... Mettons, même moi, je vais venir en Haïti, ils vont m'appeler la diaspora.
Mais... une petite anecdote, puis on pourra parler environnement, racisme après si vous le souhaitez, mais une petite anecdote. Moi, j'étais dans le nord du pays. Mes racines en Haïti sont beaucoup dans le nord-ouest, où il y a très peu d'étrangers. Et la notion, même le nom de blanc, dans le créole du nord-ouest, blanc, ça ne veut pas dire forcément blanc, couleur de la peau, ça veut dire étranger. Donc, en Haïti, quand j'ai entendu à plusieurs reprises, quand quelqu'un me voyait pour la première fois, mettons qu'il entendait le mot blanc, là, les gens, non, il n'est pas blanc, lui. C'est un Haïtien. Blanc, en créole, en région.
Parce qu'il y a des Haïtiens qui sont aussi blancs, genre aussi, couleur de peau.
Mais ça veut beaucoup dire étranger. Et aux yeux des gens du coin, de mon petit patelin, là-bas, j'étais un gars de la place, puis j'étais plus un étranger. Là.
Bon, même sur TikTok, des fois, je me sens embêter les gens, j'appelle allô les blancs. Mais j'arrête pas de dire vraiment souvent que pour vrai, c'est pas une insulte, puis pour vrai, si moi, demain matin, j'en acte, c'est moi la blanche.
Ouais.
Comme si demain, comme c'est pas une blague, les amis, c'est pas méchant,
c'est un petit peu partout. J'ai beaucoup d'amis, puis sans doute vous aussi, d'amis anglophones qui, au Québec, j'ai un petit peu de la misère avec le français, ou des fois on juge mon français un petit peu sévèrement. Mais quand cette même personne-là se retrouve dans l'Ouest canadien, ils se font dire, un petit accent du Québec, puis tout ça, puis c'est partout pareil. Donc on se retrouve en Haïti avec la même perception des gens qui habitent là-bas. Origine haïtienne peut-être, mais il y a un petit accent de Laval, ou il y a un petit accent québécois à travers tout ça. C'est normal.
Comme vous aimeriez ça, comme aider, comme continuer à aider Haïti, genre, comme même si là, en ce moment, vous avez un gros mandat Haïti.
Là, actuellement, c'est difficile pour moi, mais au cours des dernières années, je suis retourné souvent en Haïti. Là, ça fait 2-3 ans que j'y suis pas allé. C'est l'emploi du temps qui m'en empêche.
Mais c'est dangereux là-bas en ce moment.
Je regarde l'actualité haïtienne tous les jours, et ça m'attriste beaucoup. Ouais. Les derniers mois, là, au niveau de l'insécurité dans certains quartiers, c'est malheureusement très triste, mais oui, après ou lorsque j'aurai un petit peu plus de temps, c'est sûr que je vais retourner en Haïti puis voir qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce je pourrais pas dire, mais c'est ma deuxième demeure en quelque sorte.
J'aimerais ça revenir un peu sur le sujet de vos politiques, de vos objectifs, de vos suggestions. C'est prêt par rapport à la brutalité, profilage racial, je sais pas, mais profilage racial. Est-ce que c'est quoi un peu vos idées, vos solutions, vos techniques pour...
Comment ça va être traité, en fait?
Policière. Oui. Parce que là, il y en a encore. Là.
Violence, brutalité, racisme policière.
J'ai eu le plaisir, là, avec Christopher, de rencontrer des dizaines de groupes depuis notre nomination. Et c'est sans doute le sujet qui est ramené le plus souvent. Mm-hmm. Ça heurte les gens. Quand tu te fais profiler, quand tu te fais arrêter sans raison, ou lorsqu'ultimement, il y a même une certaine forme de violence, ça heurte les gens. Donc oui, on a deux...
Surtout quand tu fais six jours toujours en prison quand t'es...
On a deux actions qui touchent directement cet enjeu-là. On a déjà rencontré les principaux directeurs et directrices des corps policiers au Québec. On a, avec ma collègue Geneviève Guilbeault, qui est responsable de la sécurité publique, mis un petit peu un plan d'action en place. À l'automne, il va y avoir un dépôt de projet de loi où cette question-là sera abordée. Mais c'est clair qu'on veut...
Mais c'est trop long, je trouve.
Mais c'est trop long.
Les gars, il y a encore de la brutalité policière massivement.
En fait, la question, je pense que Laurie essaie de poser, c'est comme, mettons, est-ce qu'il y a des affaires qui peuvent être faites en attendant, genre,
comme pourquoi il n'y a-t-il pas de caméra sur les policiers, genre?
Ah, ben ça, c'est une autre bonne question. Je suis parfaitement d'accord avec les caméras corporelles. D'ailleurs, on a lancé un projet pilote il y a quelques semaines à peine avec la Sûreté du Québec dans différentes villes au Québec. Sauf que les corps de police municipaux et les municipalités sont responsables de leurs corps policiers municipaux. Donc, on va encourager, si c'est le souhait de la Ville de Montréal, de le faire. Je pense que la mairesse actuelle et je pense que les différents candidats à la mairie sont d'accord. Ça va changer. Moi, j'y crois. Je pense que ça va changer.
Pour les caméras sur les policiers?
Oui, je pense que ça va changer pour le mieux. Dans les deux
sens...
Ah, ben, c'est-à-dire, le projet pilote, oui, il est déjà amorcé avec la Sûreté du Québec. Pour ce qui est de la Ville de Montréal, naturellement, c'est elle qui va conduire ou qui va réaliser son
calendrier. Parce que pourquoi je dis que c'est trop long, parce que Toronto, là, déjà, depuis combien de temps maintenant, là?
Ben, bon, mal.
Ben, il y a moins de brutalité policière.
Je suis convaincu que ça va aider
dans
les deux sens. Parce que c'est complexe, le travail de policiers. Souvent, on ne comprend pas, et moi le premier, quel est leur travail. Donc ça, c'est un élément qui va aider à une meilleure compréhension du travail policier. Le citoyen et la citoyenne peut aussi se sentir mieux protégé par cette preuve-là qui va rester d'une intervention. Et à la limite, ça peut aider le citoyen à agir de façon plus polie envers le policier. Mm-hmm. Et ça peut aider le policier à agir de façon plus polie envers le citoyen. Donc, il y a réellement des bienfaits, mais c'est un travail complexe à la base. Et souvent, il y a de l'incompréhension et je pense que c'est un bel outil.
Mais pour
le délai, ça peut sembler long l'automne, mais on bouge entre-temps. Je ne sais pas si vous avez suivi on finit par perdre la notion du temps. Là, on est vendredi aujourd'hui. en début de semaine, avec la ville de Longueuil, avec le directeur de police de la ville de Longueuil, Daguerre, on a lancé un superbe projet qui va inclure notamment des patrouilles mixtes. Et la mixité, c'est au niveau des services sociaux. Donc, une belle combinaison travail policier, travail social, pour justement que l'intervention policière en soit pas une uniquement de répression, mais de lien avec la communauté, s'assurer. Parce que le travail policier, c'est beaucoup, beaucoup santé mentale, c'est beaucoup toxicomanie, c'est beaucoup violence conjugale. Je me souviens plus des chiffres et ça dépend d'une municipalité à l'autre, mais il y a, de façon générale, je pense pas me tromper, il y a uniquement 30 % des appels logés au 911 qui ont un lien de nature criminelle, en quelque sorte. Donc, il y a un 70 % du travail policier qui fait davantage référence aux habiletés sociales ou aux sciences sociales. Donc, ce projet pilote-là qu'on a annoncé sur 3 ans, à mon sens, a toutes les chances de devenir la norme à travers le Québec. Et ça va changer notre relation avec le travail policier. Et le directeur du service de police de Longueuil travaille sur ces initiatives-là depuis des années.
Et moi, j'ai un respect.
On l'a annoncé en début de semaine. Donc, ça, c'est pour Longueuil, mais on va espérer que d'autres municipalités puissent retenir ce modèle-là. Il faut passer ça, je vous lance l'idée. Et si jamais... On fait un deal, si ça vous tente, aujourd'hui ensemble. Ce type-là, moi, je lui lève mon chapeau. J'ai une admiration folle. Si ça vous tente de l'inviter à votre podcast, puis qu'au départ, il dit « Ah, je sais pas, je vous connais pas », je m'engage à lui parler personnellement et à lui dire... vas-y.
À nous référer.
Ça, ça vaut la peine.
Longueuil.
C'est le directeur.
Okay, c'est le chef de police de Longueuil.
C'est le directeur de police de la ville de Longueuil. Mmh. Okay. Un gars d'une humanité particulière. Lui-même un parcours d'immigration. Mmh. Lui-même un parcours. Il a été commandant à Montréal-Nord. Il a été, bref, il a une humanité formidable. Donc, si éventuellement ça vous tient de l'inviter pour parler de ces enjeux-là, je vais vous aider.
Non, mais on va pouvoir voir ça. Écoute, si on a le financement, on va pouvoir s'arranger. Mais dans le fond, c'est ça. Moi personnellement, parce que là, on est quand même aussi beaucoup dans le questionnement, parce que c'est sûr que, bon, avant de commencer à dire des affaires positives, il fallait qu'on sorte le méchant en premier, parce que c'est des questions
c'est
que...
C'est pas du méchant, c'est des questions très, très légitimes, non, qui sont très correctes.
Puis, justement, nous, on aime ça, poser les vraies questions, puis dire les vraies affaires. Puis, c'est sûr que moi, j'ai eu beaucoup de perspectives, justement, par rapport à toute, genre, la création de ce poste-là, puis tout ce qui est mis en place. Puis, tu sais, je sais qu'il y a une partie des personnes qui sont comme... Tu sais, moi, genre, je veux même pas savoir qu'est-ce qui se passe parce que c'est pas sa place. Parce qu'au final, c'est une question de respect. Puis on trouve que en tant que minorité culturelle, on a tellement pas été respecté. Puis en plus, quand ils décident de, comme, acknowledge le fait qu'on a une problématique au sein de ces communautés-là, ben, au sein de la société par rapport à ces communautés-là, mais tu sais, qu'ils prennent une personne blanche, il y a du monde qui sont comme... ils sont juste pas intéressés, puis c'est comme genre, à the end of the day, c'est juste disrespectful, ils vont même pas prendre le temps d'avoir la conversation, ou même, tu sais, genre, justement, tu sais, là, on est en train de s'asseoir, puis de vous parler, c'est parce que, tu sais, moi, je dis toujours, j'étais en communication dans la vie, fait que, tu sais, c'est bien beau avoir des affaires qui dérangent, puis des problèmes, mais si on n'en parle pas, c'est comment que, tu sais, mettons, ça sert à rien d'être fâché si t'es pas pour, comme, communiquer, puis essayer d'aller dans les pistes de solutions. Puis ça m'a amené à ma réflexion aussi que, de notre côté, c'est que, comme Naila disait, à the end of the day, même si qu'on veut que ça soit toi qui aies ce poste-là ou pas, c'est quand même toi qui es là, no matter what. Puis nous, on n'a plus de contrôle là-dessus, c'est déjà ça.
Fait que, on n'en avait jamais à la base.
Mais tu comprends? Fait que c'est comme un aspect de... On peut soit, genre, comme... se fermer les yeux, puis moi, j'ai longtemps fait ça, là, genre, juste comme me dissocier parce que c'est pour me protéger, moi, puis whatever. Mais après ça, j'ai réalisé que peu importe, je vais quand même vivre les conséquences des problématiques qu'on essaie justement d'aborder. Fait que, tu sais, on peut soit être dans la frustration ou soit être dans le travail d'équipe. Parce que, tu sais, peut-être qu'on veut pas que ça soit toi, mais c'est toi qui es là, puis on peut soit ne pas, genre, tu sais, prendre ton aide, ou on peut, genre, essayer aussi, genre, comme de travailler ensemble pour essayer d'avoir... Non, là, tu respires fort, là.
t'as dit un peu qu'est-ce qu'on parlait tantôt, je pense. Mais dans ça, c'est comme... Parce que c'est lui, genre. Mais je comprends le vibe de qu'est-ce que tu dis, genre.
À ce niveau-là, moi, l'expérience est encore toute récente. Hein. Moi, c'est une nomination qui date de février. On est en juin à peine. Je vous le mentionnais, c'est des dizaines de groupes. La question du choix des mots, puis devant témoins, là, plusieurs témoins, ça fait pas partie des échanges, ou sinon très, très peu. Les gens veulent des solutions, mm-hmm. les gens veulent des actions. Puis nous, on s'est engagés à lutter contre toutes les formes de racisme. Toutes les formes de racisme sont inacceptables au Québec. Donc, à partir du moment où on se dit on est sur l'action, mm-hmm. ben, c'est là où on rallie à peu près tout le monde. On pourra peut-être encore être en désaccord sur le choix de tel ou tel mot, mais c'est la finalité qui compte. Mmh.
Moi, je veux juste savoir comme si vous les voyez au moins tout ce qui se passe. Comme si, genre, je peux vraiment faire tellement de comme comparaisons. Comme mettons au Black Lives Matter, la manifestation, la police était déjà là comme à 8 heures du matin, je pense. Les Canadiens ont gagné, j'ai pas vu de police.
Il y a eu des grabuges. Ouais.
Ben, attention, moi, j'y étais aussi à la manifestation. Ben, il y en a eu deux. Il y en a eu une en juillet, une en septembre. Mmh. Moi, en juillet, je pouvais pas, mais je suis allé à celle de septembre. D'ailleurs, je suis allé avec toute ma famille, conjointe, enfants. Mm-hmm. On y était. La question de la présence policière, c'est tout le temps très, très délicat. Les corps policiers ont des stratégies pour veiller à la sécurité du public, éviter les débordements. Mais moi, pour les matchs de hockey, je peux vous dire que ce soir-là, je peux, sans révéler tous les secrets des corps policiers que je ne connais pas dans le détail, mais je peux vous dire qu'il y a plusieurs quadrilatères qui déjà sont sous haute surveillance pour éviter justement des débordements. Mais dans le cas de la manifestation du mois de septembre, lorsqu'on attend des dizaines de milliers de personnes personne, faut qu'il y ait un encadrement policier. C'est une responsabilité de n'importe quelle société pour que les gens qui y participent soient en sécurité. Mm-hmm. Moi, j'y étais en septembre. Je peux pas vous dire que j'ai tout vu parce qu'on était des dizaines de milliers. Mais moi, j'ai vu des policiers qui étaient là de bonne humeur, qui étaient là pour assumer leur rôle en cas de problème. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu d'intervention quoi que ce soit parce que c'était...
La fin là, de la première, là, ils ont mis des gants lacrymogènes.
Mais ça, ce qui est dommage, c'est très, très triste. Mais vous regarderez, malheureusement, manifestation contre les mesures sanitaires, victoire du Canadien. Il y a les gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui sont là pour manifester leur joie, leur opposition, peu importe. Ça représente quoi, peut-être 95%, mais dès qu'il y a une manifestation, il y a tout le temps des gens qui infiltrent ces manifestations-là pour faire du grabuge, briser des fenêtres et tout ça. Fait que les policiers doivent jouer leur rôle à ce niveau-là.
Justement, c'est pour ça que je trouve qu'ils gardent pas la même énergie.
Mais ils choisissent avec comment ils jouent leur rôle puis avec qui ils jouent leur rôle.
C'est une question d'évaluation, puis dans le cas d'une des manifestations anti-mesures sanitaires, là, il y a quelques mois, moi, je me souviens très bien avoir entendu et les autorités policières et la ville de Montréal dire on l'avait mal évalué. Il y a eu des débordements, il y a eu le potentiel de problèmes. Donc, il n'y avait pas suffisamment de policiers. Il y a eu des débordements.
C'est pour les Canadiens,
avec, une manifestation il y a quelques mois contre les mesures sanitaires.
Mais c'est donc, ça, je trouve, qui est le problème. Parce que c'est comme, ça a été mal évalué, mais nous, on n'a pas le droit à l'erreur.
C'est comme si, mettons, quand c'est nous, ils réfléchissent que comme, on sort tout l'arsenal.
je penserais pas. Honnêtement, j'ai en tête la manifestation de septembre, des débordements à la toute fin. Et à ma mon impression, c'est très personnel, mais pour moi, les gens qui ont fait du grabuge n'ont rien à voir avec la marche, n'ont rien à voir avec la cause. C'est des gens qui, peu importe le contexte, veulent faire du trouble. Mais lorsque l'on attend, comme municipalité ou comme gouvernement, lorsqu'on sait qu'il y a une manifestation qui est susceptible d'accueillir 50 000 personnes, il faut prévoir des dispositifs de sécurité pour que la population soit en sécurité.
Pour finir, justement, c'est que, comme tout ce qu'on parle, au final, c'est que l'information qu'on a eue, c'est par rapport aux médias. Puis ça, c'est un gros questionnement, puis c'est une grosse problématique parce que les médias, c'est eux qui font la plus grande propagande. Parce que c'est eux qui contrôlent l'information qui sort, puis on sait que toutes les chaînes de médias au Québec appartiennent à genre Québécois puis l'autre, là. C'est-tu bête? Non, j'ai oublié c'est quoi son nom, mais appartiennent à deux personnes. Mais c'est que comme... Comment est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait? Parce qu'au final, genre, il n'y a pas de représentation dans les médias. C'est là que les stéréotypes sont véhiculés. Il n'y a pas de place. Comme je ne sais pas si c'est au niveau du ministère de la Culture ou quelque chose, mais c'est que comme là, il y a un gros problème que le manque d'informations, genre, que les médias y font, genre, normalement, ça fait que ça a un impact sur la société. Puis, on a, tu sais, les grabuges, j'y parlais, genre, au BLM, genre, juste du fait qu'il y a eu des grabuges, puis comme vous les avez nommés, ils n'ont même pas rapport avec la manifestation, mais pourtant, quand que, genre, moi, j'ai écouté la télévision, ils ont juste parlé de l'aspect grabuge et non de qu'est-ce que ça représentait, la mort de George Floyd ou tout l'impact que ça a eu.
Vous avez, je ne porterai pas de jugement sur le fait est-ce que c'est des agents de propagande ou pas, mais vous avez raison et je suis d'accord pour dire que les médias ont une grande responsabilité. Moi, si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou autres, je me gêne pas quand j'ai le sentiment qu'une couverture est déplacée ou laisse place à certains préjugés. Je le laisse savoir. Mais oui, les médias ont une responsabilité. Tout à l'heure, je parlais d'exemplarité pour le gouvernement du Québec. Les médias ont un devoir d'exemplarité aussi au niveau de leur animateur. C'est une responsabilité qu'ils doivent assumer, mais il n'y a pas de loi qui dit...
Tant
de pourcentage de gens. Bon, on les encourage. Au fil des ans, c'est encore insuffisant quant à moi, mais si vous regardez, là, au fil des ans, on a plus en plus d'animateurs, animatrices, journalistes, que ce soit d'origine noire, que ce soit d'origine asiatique, que ce soit...
C'est qui?
On n'a pas vraiment le temps d'élaborer sur toutes les questions, de nommer des noms.
Tout à l'heure, on voulait éviter le name-dropping, mais je pourrais vous en... Moi, je travaille avec les journalistes journaliste. Mmh. C'est un petit peu mon quotidien. Je peux vous dire que chaque chaîne maintenant a des gens issus là de différentes origines. Mmh. Mais il y a une responsabilité d'exemplarité à ce niveau-là, là, très, très clairement.
Mais c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu nous voir.
Tu m'aimes.
Il y a une question que j'aurais voulu poser que vous pourrez me répondre par courriel plus tard. C'est pas grave, là. J'aurais voulu savoir un peu dans votre propre lutte personnelle contre le racisme pour éliminer ces biais, si vous aviez des suggestions à faire aux gens, peut-être des livres que vous avez aimés, des podcasts que vous écoutez.
On n'a pas deux minutes pour qu'ils le disent?
Non, c'est ça. Il faut faire
on
la conclusion.
On va se reprendre. Ce sera l'épisode 2 si vous voulez. Je reviendrai pour.
On peut faire un live avec vous. Hein?
Part 2.
Est-ce que vous avez des lives sur Instagram?
Oui, j'ai fait mon premier hier. J'ai jamais fait ça. Moi, c'est mes enfants qui m'initient à ça. Je suis très, très archaïque en matière d'application. Je connaissais même pas le mot de passe de mon propre compte. Mais hier soir, j'ai fait mon premier Instagram live. Donc, on pourra en faire un autre.
Vous êtes officiellement un influenceur.
Je ne sais pas combien de gens suivaient, mais au moins ça a fonctionné.
C'est bon. Fait que merci beaucoup pour vrai. C'était vraiment une belle discussion. On s'est bien amusé. J'aimerais rappeler à tout le monde que l'épisode aujourd'hui était sponsor. C'est parfait. La Fédération africaine-canadienne pour l'économie. Fait que c'est pas mal tout le temps qu'on avait en lambi.
Merci encore d'être venu.
Puis pour le public, si jamais vous avez des questions justement qu'on n'a pas posées puis que ça vous trotte dans la tête, vous allez pouvoir les écrire en commentaire. Puis nous, quand on va faire le live justement avec Tiben, on va pouvoir justement en jaser puis répondre à vos questionnements puis tout travailler dans le même sens.
Ça peut se faire en français, en créole, en anglais. Ça, okay. On pourra jouer sur ces trois langues-là.
Français.
On va parler
français.
À...
Sur ce, merci.
Merci à vous.
Bisous.